Nous allons ouvrir le Saint-Livre, nous allons lire. D'abord, juste une introduction par rapport, avant de lire. Vous savez que, quand vous lisez l'histoire de David, vous voyez cet homme qui, dès sa jeunesse, a cherché Dieu. Le regard de Dieu s'est posé sur lui. Et il nous a dit, par exemple, je crois que c'est dans 1 Samuel chapitre 3, que David devenait de plus en plus fort. Et vous regardez ces psaumes et régulièrement, vous voyez un homme qui dit « L'Éternel est ma force ». Vous avez lu les psaumes et vous reconnaissez que cet homme dit ces choses. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et j'aimerais à ce sujet donc que nous commencions en lisant dans le psaume 7, si je me trompe, ou le 6, 6. Dans le psaume 6, David traverse un moment difficile, comme ça peut arriver à chacun de nous. Vous êtes d'accord ? Il traverse un moment difficile. Écoutez bien, mes frères et sœurs, si nous voulons vivre ce que nous avons chanté, triomphons, chantons dans l'allégresse, si nous voulons vivre le dernier chant, victoire au Seigneur de la vie, est-ce que nous voulons vivre la vie dans la victoire ? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons des vainqueurs ? Oui, à celui qui vaincra. Mais il n'empêche que la vie est en fait d'épreuves, de combats, de luttes, etc. Nous pouvons nous faire piéger. Regardez avec moi le témoignage de David dans le psaume 6. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Vous voyez, ça n'a pas toujours été le cas. Il a donc passé un moment difficile. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Ça peut arriver d'avoir l'âme troublée. Et toi, Éternel, jusque à quand ? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Et à partir de ce moment, il réagit parce qu'il connaît Dieu. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière, tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain couverts de honte. Amen. Les deux derniers versets nous prouvent que l'on doit réagir lorsque nous sommes sans force. Des chrétiens ne réagissent pas. Regardez cette prière de l'apôtre Paul, il est en prison. C'est mon introduction par rapport à un sujet qui me préoccupe, le fait de s'exhorter les uns les autres et d'être forts. Dans Éphésiens, nous voyons donc une prière. N'oubliez pas, Paul est en prison. Je ne sais pas si nous réalisons. Il est en prison. Si vous lisez les trois premiers chapitres, il n'est pas en prison en vérité. Il est dans les lieux célestes, moi je vous le dis. Si vous méditez les trois premiers chapitres, je vous assure que cet homme, il n'est pas ainsi dans une prison. Son corps, oui, mais son âme est assise dans les lieux célestes. Il baigne dans la victoire. Et regardez ce qu'il dit. C'est une prière, Éphésiens chapitre 3, verset 12. En lui, donc en Jésus-Christ, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ce qu'a fait David pour retrouver des forces. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, regardez ce qu'il fait, c'est important de comprendre. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, c'est-à-dire dans votre âme ou dans votre esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous le croyez, ça, qu'on peut être rempli ? Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les nations, au siècle des siècles. Mes frères et sœurs, vous croyez qu'on peut être exaucé par rapport à cette prière ? Que nous pouvons, nous aussi, avoir cette grâce d'être des instruments de bénédiction pour les autres. Un peu plus loin, nous voyons l'apôtre Paul qui parle aux Colossiens. Regardez ce qu'il leur dit. Colossiens chapitre 2, verset 1. Non, je me suis trompé. C'est Colossiens chapitre 3. Regardez bien, mes frères et sœurs. C'est important. C'est très important. Là aussi, il est en prison. Est-ce que c'était bien que Paul soit en prison ? Eh oui, il y a des choses plus importantes que la liberté, il y a des choses plus importantes que la guérison. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Colossiens chapitre 3, verset 15. Mes frères et sœurs, je vous encourage à noter ces textes. Il y a déjà des gens qui n'ont pas compris, qui ne comprennent pas que Dieu veut leur parler. Je le ressens dans mon esprit. Il y a des gens, ils sont là, ils veulent entendre un bon sermon. Ça ne servira à rien. Vous devrez prendre un crayon et dire, voilà, cette prière, je dois la méditer. Ce que vous allez lire là est important pour quelqu'un. Colossiens chapitre 3, verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes. Pourquoi je disais tout à l'heure avant le culte que c'est important de chanter de tout son cœur ? Par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Chapitre 4, verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Exhortez-vous, verset 16, les uns les autres. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous pensez de ce commandement ? On est devant Dieu, on a vécu un moment déjà dans la présence de Dieu, on va repartir, on va être à la maison. Qu'est-ce que vous entendez dans votre âme lorsque vous lisez « Exhortez-vous les uns les autres ». Si vous venez avec moi dans, venez-y, dans Hébreu, plusieurs fois cette parole de Dieu vient. Vous connaissez ce verset ? Recevez mes instructions. Et vous trouverez le repos. Hébreux chapitre 3, verset 12. Mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens sont en vrac depuis des années. Vous avez entendu la prophétie qui rappelait que si on n'apprend pas ce qu'on doit apprendre dans l'épreuve, eh bien Dieu attendra. Dieu attendra les mois, les années qu'il faudra tant qu'on n'a pas appris. Avec Dieu, c'est un principe. Tant que je n'ai pas appris ce que je dois apprendre dans l'épreuve que je traverse, eh bien je redouble. Jusqu'à ce que j'ai appris. Il vaut mieux apprendre de suite, croyez-moi. Hébreux chapitre 3, regardez bien frères et sœurs, verset 12, notez ces versets, je ne vous dis pas ça pour que vous occupiez, pour que vous méditiez, pour que nous méditions. Prenez garde frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, vous entendez ? Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Regardez Hébreux 10. Dans Hébreux 10, il y a ce verset, je crois, qui revient aussi. Oui, verset 25. Hébreux 10, 25. Nous pourrions prendre tous ces textes qui nous montrent une chose que Dieu veut. Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour où Jésus va venir nous chercher, approche. Mais là, ce n'est même pas la peine de le dire, tellement c'est évident. Mais mes frères, est-ce que vous faites partie de ces croyants qui ont accepté les conseils et qui disent, mais oui, je veux exhorter mon frère, je veux exhorter, peut-être que tout à l'heure, je vais discuter avec Claudine ou avec Sophie, avec Monsieur de Dieu, avec Madame Untel, je veux l'exhorter. Est-ce que c'est important dans une église, ton église triomphante, c'est des cantiques costauds, j'en conviens. Mais mes frères et sœurs, comment une église peut être dans le triomphe, c'est-à-dire dans la victoire totale ? C'est pas la victoire, le triomphe c'est une victoire définitive. Est-ce que, mes frères et sœurs, vous croyez que même si ce sont des temps super difficiles, et alors ? Même si l'apostasie s'est infiltrée dans plein d'églises, et alors ? Vous croyez que nous pouvons vivre dans la victoire ? Ben oui. Toutes les lettres terminent par « à celui qui vaincra ». Donc c'est déplorable. Et alors, moi je vais vous dire, j'entends souvent le Saint-Esprit me dire « que t'importe les autres, toi, suis-moi ». Mes frères et sœurs, exhortez-vous. Comment nous pourrions articuler cette prédication ? Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. C'est de notre devoir. Tout à l'heure, vous allez discuter avec 5 personnes, avec 10 personnes. Vous allez rentrer à la maison, vous allez rencontrer vos enfants, vous allez rencontrer votre épouse, vous allez rencontrer votre mari. Est-ce que c'est important pour vous de faire du bien ? c'est la volonté de Dieu. Il y a des gens, ils sont là toute leur vie, ils s'arrachent les cheveux. Seigneur, quelle est ta volonté? Mes frères et sœurs, la volonté de Dieu, elle est bonne. Nous devons nous faire du bien les uns les autres. Même si on est fatigué. Nicolas, qui a fait d'énormes progrès dans les chants, nous rappelait tout à l'heure l'importance de commencer des chants par un cantique de triomphe. Même si ça ne va pas. Eh bien oui, parce que même si on est dans l'épreuve, on peut se réjouir du salut de son âme. Oui ou non? Mais on l'a déjà fait, on l'a déjà vécu, on n'était pas bien, on était malheureux, on est arrivé, il y avait un chant sur la croix. Était-il fait, le gars l'a-t-il bien fait chanter ou pas? Qu'importe, ce qui est important, c'est que le chant soit spirituel. Vous comprenez? Oui, je me réjouis du salut de mon âme parce que Jésus a versé son sang au calvaire. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Si vous voulez être prêts quand Christ va revenir, il faut que nous soyons sérieux. Beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. C'est la faute en partie, au pasteur en partie, j'en conviens. Mais croyez-moi, si vous vous retrouvez nu devant Dieu, c'est parce que vous n'aurez pas pris le soin de vous habiller convenablement avec sa parole. Exhortez-vous, mes frères et sœurs, c'est notre devoir. Ne dites pas, ouais, mais si tu savais ce que je traverse. Écoutez, je suis quand même bien placé pour savoir que même dans l'épreuve, on peut s'appliquer à encourager les autres. Vous l'avez fait plusieurs fois? Vous ne l'avez jamais fait, frères et sœurs? Ça va, ouais, si tu savais que je traverse ce que je traverse. Mais tous, on a des moments, et c'est justement, c'est des moments bénis. Moi, je peux dire, avec mes 37 ans de conversion, que toutes mes épreuves, lorsque je les ai acceptées, ça a été une occasion de faire des progrès. Et vous savez que c'est vrai. Tous. Si vous avez vécu cela, vous le savez. Donc, exhortez-vous, exhortons-nous. Paul le dit, mais comment en réalité vous le faites? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui exhortent les autres? Ou est-ce que vous faites partie de ces gens qui découragent les autres? Un jour, j'avais l'intention d'utiliser un frère. Je ne sais plus où c'était, c'est ici ou ailleurs, c'est là-bas. Et sa fille est venue me trouver. Elle m'a dit, monsieur, vous voulez utiliser mon papa? Mais mon papa à la maison, il nous irrite, il est tout le temps en colère, il fait rien, il est tout le temps fourré devant la télé. Vous voulez utiliser un homme comme ça? Je dis non. Et j'ai remercié cette petite. Je crois, mes frères et sœurs, que notre devoir, c'est de nous plonger dans la parole de Dieu. Alors on va lire, on va prendre quatre textes, tout simples, qui nous permettent réellement de savoir ce qu'il faut faire pour être fortifié. Puisque pour exhorter les autres, pour les encourager, il faut prendre courage. Pour prendre courage, eh bien, il faut bien entendu être fortifié dans le Seigneur. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous ne réalisons peut-être pas bien, je pense que c'est une erreur, c'est grave. Nous ne réalisons pas que si nous avons vraiment accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, il n'y a rien de plus puissant sur la terre que le Saint-Esprit. Et si nous laissons travailler par le Seigneur, si nous nous laissons conduire par le Seigneur, nous verrons ce qu'il faut faire. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est un commandement. Vous acceptez les commandements comme une bénédiction ou c'est une lourdeur, les commandements? Ah non, pas encore des commandements. Mais vous savez, beaucoup de promesses, qu'on le veuille ou non, sont liées à des conditions. Il y en a qui sont inconditionnelles. Je vais vous préparer une place et quand je serai prêt, je viendrai vous chercher. Voilà, ça c'est sans condition. Quoique, il vaut mieux quand même être prêt. Mais c'est des promesses. Mais il y en a, elles sont liées à plein de conditions. Alors, on va prendre quatre textes. Je vous demande de noter ces textes et de demander au Saint-Esprit qu'il vous les fasse comprendre, qu'il nous les fasse comprendre. Le premier, c'est dans Romains. Nous voyons un homme qui est là, Dieu lui a fait une promesse, il y a 25 ans que Dieu lui a fait une promesse, elle ne s'est pas accomplie, il a fait deux ou trois erreurs, il est là, mais quand même, il va faire une expérience. Romains, chapitre 4. Mes frères et sœurs, même si vous ne retenez pas tout de ce que je vais dire, notez-les ces prédications, ces textes, c'est la parole, vous pourrez les méditer, ça sera le deuxième point. Regardez, Romains au chapitre 4, que fait Abraham? Qu'est-ce que ça veut dire? Exhortez-vous. Comment être fortifié? Comment être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu? Romains 4, verset 17. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Je suis sûr que quelqu'un va prendre une victoire rien qu'en méditant ce verset. Si on le méditait, je pense que ça changerait. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Regardez bien maintenant. Regardez bien s'il vous plaît. Et sans faiblir dans la foi, ça doit nous intéresser ça, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais, qu'est-ce qui se passe? Lisez-le bien avec votre cœur. Il fut fortifié par la foi, par la confiance, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et tout le monde dit amen. Mes frères et sœurs, vous avez là une explication. Dieu aurait pu ne pas le consigner dans le Saint-Livre. Dieu nous a indiqué un moyen spirituel pour que notre âme soit fortifiée, pour que l'Église ne soit pas remplie de gens faibles. Je vous parlais l'autre jour d'une sœur qui me dit, « Monsieur Gault, quand je vais dans l'Église, tout le monde me décourage. Tout le monde !» Mais c'est une église qui n'a pas veillé. C'est une église qui a basculé dans la religion. Vous vous rappelez quand Dieu dit du temps d'Amos, ben allez à Bethel, allez à Bethel. C'est des lieux de culte. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Allez à Bethel et péchez. Il n'y a que Dieu qui pouvait dire quelque chose pareil. Pourquoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont à l'église, mais ils vivent dans le péché et ils amènent l'interdit dans l'église. Et le Saint-Esprit ne peut pas se manifester librement. Nous, ce que nous voulons tout à l'heure, c'est terminer par des prières que Dieu va exaucer. Oui ou non? Et Abraham, le temps a passé, il avait presque 100 ans, ça faisait 25 ans que Dieu lui avait dit « tu auras un fils ». Entre-temps, il s'est loupé, vous savez ce qu'il a fait, etc. Mais à un moment donné, il a réagi et il a dit « non, je ne faiblirai pas. Je ne laisserai pas le doute envahir mon cœur. » Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Sérieusement, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Des fois, on est là, on ne sait pas quoi faire. Eh bien, nous ferions bien d'imiter son exemple. Il fut fortifié par la foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné gloire à Dieu. C'est tout, oui, c'est tout. Il donnait gloire à Dieu. Le soir, quand il sortait, qu'il voyait les étoiles, parce que Dieu lui avait dit, sors de ta tente et regarde les étoiles. Ta postérité sera aussi grande que les étoiles. Il ne savait pas ce qu'il entendait. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Qu'est-ce qu'il pouvait faire, Abraham? Il glorifiait Dieu. Mais combien de fois dans les épîtres, Dieu nous demande de rendre grâce? Combien de fois il est dit « rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Combien est-ce que tu rends grâce pour l'épreuve que tu traverses? Oh, monsieur Gault, vous n'allez pas trop loin non plus. C'est pas moi qui vous le dis. Dieu, dans sa puissance, voit quand quelqu'un lui fait confiance. C'est comme ça, c'est un principe. Dieu voit si vous lui faites confiance. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il le voit, il n'y a pas besoin de lui parler. D'ailleurs, on a chanté dans vos cœurs. Mes frères et sœurs, Dieu, il est attiré par quelqu'un qui lui rend grâce. Je suis dans l'épreuve et je te rends grâce parce que ce que je dois apprendre, je veux l'apprendre. Abraham, il a glorifié Dieu. Et ça, ce n'est pas par des cantiques, c'est clair qu'on a chanté de beaux cantiques, triomphons, chantons dans les graisses, on a chanté victoire au Seigneur de la vie, c'est un beau cantique, victoire au Seigneur de la vie. Oui, mais moi, je n'y suis pas dans la victoire. Eh bien, j'ai qu'à commencer par rendre grâce à Dieu. On le fait à table. Vous le faites à table? Vous rendez grâce à table? Pour le repas, c'est pas une bénédiction? D'avoir à manger tous les jours, on le fait, parce que bon, c'est devenu une espèce d'habitude. Enfin, moi, je sais que je ne l'ai jamais fait par habitude, même quand je n'étais pas bien. J'ai toujours réalisé que c'était une grâce d'avoir un morceau de pain dans l'assiette. Ça, je l'ai toujours réalisé. Mais est-ce que vous ne pouvez pas rendre grâce pour le conflit que vous traversez actuellement au travail? Avec tel chef de service, c'est bizarre, comme il est pénible, il m'énerve, je suis irrité. D'ailleurs, je vais me mettre en maladie. J'ai entendu ça, la fille, elle est rétrograde. Moi, je croyais qu'elle blaguait. Une chrétienne, elle s'était attrapée avec le chef de service pour ci, pour là, et elle a dit, mais bon, je me mettrai en maladie une semaine, il comprendra. Moi, je crois qu'un chrétien spirituel, il aurait dû aller voir le chef de service le lendemain et lui dire, je vous demande pardon pour mon attitude hier soir. je suis chrétien, en plus je suis irrité, je vous demande pardon, j'ai mal réagi. Vous ne croyez pas que Dieu l'aurait béni? Mes frères et sœurs, et les chrétiens se comportent comme des païens. Mais pourquoi? Eh bien parce que certains ne sont pas nés de nouveau, certains sont tellement loin de Dieu qu'ils n'ont même pas compris ce qu'ils devraient comprendre dans un moment comme celui-ci. Nous devrions comprendre qu'en fin de compte, c'est des solutions que Dieu nous donne, pas des solutions techniques, des solutions spirituelles. Je peux glorifier Dieu, rendre grâce en toutes choses. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous allez dire Amen, il n'y a que M. Catéco qui a dit Amen. Mais c'est toujours un bon début. Dans le livre de Josué, il y a la deuxième explication. Josué va devenir le chef d'État d'Israël. Enfin, ce n'est pas encore Israël, mais enfin, le chef d'État des Hébreux dans le désert. Dieu l'a désigné. C'est un homme qui, pendant 40 ans, n'a rien dit. Il est resté intègre. Il n'a pas pu rentrer dans le pays de Canaan à cause de ses 10 frères qui ont découragé tout le peuple. Lui, il ressort du pays. Pas découragé. Pourquoi? Eh bien parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est beau quand quelqu'un, au bout de 40 ans, n'est pas découragé. Vous pouvez le dire, j'ai pleinement suivi la voie de l'Éternel. Quand vous regardez, ils ont passé 40 ans, des années lunaires de 360 jours, j'ai calculé, ça fait 14 400 jours, dans le désert, à cause des autres. Ils ressortent du désert. Ça va? Très bien. Voilà, je suis vieux, mais j'ai autant de force que j'en avais alors pour m'emparer des promesses que Dieu a faites. Qu'est-ce qui fait que ces hommes, 40 ans après, vieux, sont toujours bénis? Parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, comme on l'a lu tout à l'heure, afin que le Saint-Esprit remplisse notre esprit. Bien souvent, nous sommes découragés, mais parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, il ne faut pas rêver. Et Dieu ne dit pas à Josué, écoute, tu vas remplacer Moïse, tu vas être le premier chef d'État, tu seras dans le canon des Écritures, le premier qui portera le nom du livre que j'inscrirai. Alors il te faut être un bon chef d'État, il te faut bien préparer l'armée, il te faut bien préparer les routes, il te faut vérifier toutes les armes de tous tes soldats, etc., etc. Regardez ce que Dieu lui dit. Josué 1, verset 6, est précédé de promesses, en veux-tu, en voilà. Mais regardez la condition, mes frères et sœurs. Je peux vous dire que lorsque vous serez remplis du Saint-Esprit, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous décourageront. Josué chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Ce sont des verbes actifs qui nous indiquent que ça dépend de nous. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, la seule chose qu'il avait à faire. Et aie bon courage. Alors, comment vous faire? En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le le dimanche matin. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est Dieu qui parle. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Mes frères et sœurs, c'est la deuxième attitude à avoir. Un chrétien qui veut être fort, pas pour être fort pour en mettre plein la vie aux autres, mais fort pour la gloire de Dieu, fort pour être utile dans son église, fort pour être une bénédiction dans sa famille. Un chrétien, il n'a pas besoin de s'effrayer. D'ailleurs, quand il est parlé de Jésus qui avait l'onction, il dit, mais il ne se découragera pas. Quelqu'un qui a les yeux fixés sur Dieu, mais il est impossible qu'il se décourage. À moins qu'à des moments, il y ait des erreurs, comme David qui dans le psaume 10, et voilà, mais il a été honnête. Il n'a pas joué la comédie, il a dit je suis sans force, je me suis éloigné de toi, ça ne va pas, je me suis loupé, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, je reviens au calvaire, mes frères et sœurs, je reviens au calvaire. Qu'est-ce que Dieu a dit aux hommes qui ont été utiles? Qu'est-ce que Dieu a dit? Eh bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Vous aimez méditer le Saint-Livre? Sérieusement. Je vous pose la question, vous allez me dire, ça fait 50 fois que je la pose. Franchement, vous aimez le Saint-Livre? Sérieusement. Vous l'avez entendu ce matin, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain. Il y a le pain qui réjouit nos corps, peut-être que tout à l'heure vous allez manger, je ne sais pas, quel est votre plat préféré? Hein? Tiens, quel est votre plat préféré, monsieur Katéko? C'est un plat de d'ici, j'espère, pas de là-bas. Hein? Quel est votre plat préféré? Il y a des plats que vous aimez? Ben ouais, il y a des choses que notre corps aime. J'ai entendu le banni. Mais vous en ferez pour Noël, pour la longue veille. Mes frères et sœurs, il y a des choses que notre corps, il aime. Mais votre âme, est-ce qu'elle aime les mets succulents et gras? Des commandements, comment vous le lisez? Je voudrais vraiment insister. Comment vous lisez ce verset? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Comment vous le prenez? Vous le prenez comme comment dirais-je, quelque chose de légaliste? Oh, c'est légaliste dans cette église. Non, c'est pas du légalisme. C'est une bénédiction, un ordre de Dieu. Tu m'as donné un ordre de me fortifier, de prendre courage. Seigneur, les temps sont mauvais, les temps sont pénibles et ça ne va pas faire en s'arrangeant. Mais Seigneur, moi je resterai dans la victoire. Je ne le chanterai pas de temps en temps, ou bien ou mal. Tant pis si le meneur de chant, je ne voulais pas le dire ça. Mais je le chanterai de tout mon cœur. Je le chanterai de tout mon cœur. Victoire. Vous ne pouvez pas être dans la défaite si vos yeux sont fixés sur la croix, si vos yeux sont fixés sur la parole. Ne t'effraie pas, ne te décourage pas. Mes frères et sœurs, si vous regardez sur terre, il y a de quoi être découragé, à peu près en l'affaire de 2 secondes. Tout ce que vous verrez, tout est fait pour nous décourager. Quand vous regardez au ciel, tout est fait pour nous fortifier. Amen. Dieu a tout agencé, de sorte que dès que vous ouvrez le Saint-Livre, bien sûr, si vous ne comprenez pas Lévitique chapitre 8, je comprends, mais ne me dites pas qu'il y a des textes qui ne sont pas faciles à comprendre. Et que le Saint-Esprit peut illuminer les yeux de notre cœur. Ah, moi je ne lis pas, j'y comprends rien. Quand vous allez passer devant Dieu, c'est ça que vous allez lui dire? Je lisais ta parole, j'y comprenais rien. Vous vous rappelez pas ceux qui ont dit ça en français des Hébreux, là? Quand ils disaient, j'en ai marre, notre âme en a marre de cette misérable nourriture. C'est pas bon signe. Quand la parole de Dieu, ouais, je la lis, mais à quoi ça sert? Je peux vous dire que vous n'êtes pas en bon état spirituellement. Il faut que vous l'entendiez. Moi je ne vais pas vous dire que ça va bien si ça ne va pas. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Est-ce que vous croyez que Josué était heureux d'avoir entendu ça? Et Josué, plutôt que de s'occuper des techniques de la guerre comme les généraux, parce que c'était le général de l'armée, le président, ça a toujours été comme ça, c'est les généraux, c'est les de l'armée. Et Dieu lui a dit, médite la parole. Vous voulez être utile dans l'église où Dieu vous placera? Peut-être que dans 1 an, 2 ans, vous serez dans une église comme j'ai parlé tout à l'heure. Moi, je suis peiné de voir tant de pasteurs qui arrêtent. Vous ne trouvez pas que c'est dommage? Mes frères et sœurs, fortifie-toi et prends courage. 3e texte. Vous le connaissez, c'est un texte que j'utilise souvent. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un texte par lequel Dieu m'a parlé quand je priais, mais que je ne me confiais pas en Dieu. Voilà. Ésaïe chapitre 40, c'est un chapitre avec... Il y a 18 questions dans ce chapitre. Je les ai toutes méditées parce que je trouve que ça vaut la peine. Mais enfin, bon, on va partir d'une question, Ésaïe 40, verset 27. Regardez mes frères et sœurs, regardez ce chapitre, notez-le, ce soir peut-être dans la présence de Dieu, plutôt que de regarder, je ne sais pas, des âneries, peut-être que dans la présence de Dieu, vous allez expérimenter cette affaire-là. Je l'ai expérimenté, je peux vous le dire, quand j'étais découragé, ça faisait 5 ans que ça durait. Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu, Église de Toulouse, pourquoi dis-tu, mettez votre prénom, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Voilà, ça c'est les questions que les hommes passent. Écoutez les questions du Seigneur. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Voilà, un des problèmes, il est là. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Vous voyez, ça peut arriver. Vous voyez, ne jouons pas les comédiens. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils marchent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Le pasteur qui m'a formé m'avait demandé d'apprendre des versets par cœur. Donc ça fait que je me suis mis à la tâche et j'ai appris des centaines de versets par cœur. Donc c'est un verset que je connaissais par cœur. Quand j'ai passé ma période de découragement, qui a été longue et profonde, ça a été loin. J'ai eu même, écoutez bien, attention, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai eu la tentation du suicide. Je ne l'aurais jamais fait, je n'ai pas envie d'aller en enfer. Mais je vous le dis parce que c'était tellement grave que j'y ai pensé. C'était une tentation. Est-ce que ça peut être une tentation, le suicide? Ben oui. Je vous dis ça, attention, ne l'interprétez pas n'importe comment. Tellement ça allait mal. Et moi qui connais des versets par cœur, et je peux vous dire que ce n'est pas parce qu'on connaît des versets par cœur qu'on est spirituel, je sais de quoi je parle. Et moi, j'étais mal. Moi, je voulais abandonner le ministère. Et je priais, je dis, Seigneur, tu vois, tu dis que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui prient, renouvellent leur force, et moi, je n'ai pas de force. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Je n'ai pas dit ceux qui prient. C'est écrit ceux qui se confient en l'Éternel. Si vous saviez, ça a été une révélation. J'ai compris la différence entre prier et se confier en Dieu. Vous avez compris la différence? On peut prier et ne pas se confier. D'ailleurs, on le sait qu'après avoir prié, si on est découragé après avoir prié, c'est qu'on ne s'est pas beaucoup confié. Le lendemain, pareil à genoux, j'avais été fortifié quand même. Je me dis, bon, mais tu vas te confier. Confie-toi en Dieu. J'étais là, ça allait mal, hein, vous savez, je traînais les pattes, je vous le dis. Hein. Le lendemain, j'étais en train de prier. Heureusement que j'ai passé du temps dans la prière, parce que je peux vous dire que je ne serais pas là. J'étais en train de prier. Tout d'un coup, une pensée qui s'est imposée dans ma tête. Ne t'inquiète de rien, c'est un ordre. Je savais que Dieu m'avait parlé. Je me suis levé, je suis sorti de l'église. Ah, mais vraiment? J'étais là, j'ai dit, c'est bon, c'est un ordre, je le fais. J'étais fou de joie. Ça faisait 5 ans que j'attendais une réponse. Ouais, bon. J'ai dit, c'est là, Dieu m'a parlé, il faut que je fasse. Je ne m'inquiétais plus, parce qu'il y avait quand même des sujets d'inquiétude. Le lendemain, pareil, j'étais en train de prier. Ça faisait 1 heure, 2 heures que je priais. Et tout d'un coup, ne combat plus contre la chair et le sang, c'est un ordre. Et là, j'ai été libéré. 2 versets bibliques. Ne t'inquiète pas, c'est un ordre. Ne lutte pas contre la chair et le sang, c'est un ordre. Et j'ai compris pourquoi l'avant-veille, le Saint-Esprit m'avait rappelé ce verset, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et je vous le dis devant le Seigneur, parce que j'aime pas parler de moi, je dis au passagère, quand vous prêchez, ne parlez pas de vous, ça ne sert à rien. Et c'est vrai que ça ne sert à rien de parler de soi. Mais là, il y a des expériences qu'on a faites et qui ont changé votre vie. Et je me rappelle que quelques jours après, ma femme avait fait un songe. Mais un songe, elle me dit, tu sais Gérard, l'ennemi, il va te détruire. Il va chercher à te détruire. Écoutez-moi bien mes frères et sœurs, je vous promets que c'est vrai. J'ai dit, je sais que Dieu me protège. Je le sais. Et cette affaire, j'avais été prévenu, ça a été grave, ça a été super grave. Mais je l'ai vécu dans la paix. Pourquoi? Parce que j'avais compris une chose, que quand Dieu dit ceux qui se confient en l'Éternel, et ça, ce n'est pas une question de prier. Il y a des gens qui prient et prient quand ils se relèvent. Oh, ça va? Non, ça va pas, j'ai peur. Non, mes frères et sœurs, quand vous vous confiez à Dieu quand vous priez, quand vous ne priez pas, quand vous vous promenez, quand vous êtes à la maison, au travail. La confiance n'est pas liée qu'à la prière. La confiance est un état de cœur. Ceux qui se confient en l'Éternel. Voyez, donc, je suis fortifié par la foi, je rends gloire à Dieu. Je suis fortifié par la foi, comment? En méditant la parole. Je dois la méditer, c'est ce que je vous aide à faire ce matin. Troisièmement, je me confie en Dieu. C'est quelque chose de... Il n'est pas dit, vous sera fait selon votre prière. Est-ce que c'est écrit, vous sera fait selon votre prière? Jamais. Il vous sera fait selon votre foi. La foi, c'est la confiance. La confiance dans vos prières? Non, la confiance en Dieu. Il n'est pas dit, mettez votre foi dans votre foi. Mettez votre foi dans vos prières. Mettez votre foi dans tous les efforts que vous faites. Non, les efforts, il faut les faire pour faire confiance à Dieu. Gloire à Dieu. Et ne pas vous démener. C'est vrai, quand j'ai fait l'AVC, je vous assure, moi j'ai vécu ça dans le repos de la foi, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Je savais que Dieu voulait m'arrêter de courir à droite et gauche et des visites pour que je cherche sa face. Je le savais. Il fallait que je cherche sa face et que je cherche sa face parce que c'est quelque chose que Dieu me demandait à moi. Il fallait que je cherche sa face. Et quand je vois aujourd'hui ce que le Seigneur me demande de faire hors de l'église, en plus je bénis Dieu pour l'assemblée parce que vous me permettez, avec le conseil administratif, avec les moyens que vous accordez de pouvoir former des pasteurs, etc. Mais mes frères et sœurs, quand Dieu dit « Cherchez ma face », on devrait peut-être s'arrêter un moment et dire « Mais est-ce que je sais le faire ? Est-ce que je l'ai déjà fait ? Est-ce que je l'ai déjà fait ?» Le dernier texte, j'aimerais que vous le reteniez celui-là. Il est tellement beau, tellement profond et en même temps, comme tous presque, prononcé dans une simplicité totale. Lorsque Paul écrit à un de ses jeunes pasteurs, il écrit ceci, 2 Timothée chapitre 2, verset 1er. Regardez bien. La solution de tous ces problèmes, elle est là, croyez-moi. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1er. Il n'y a pas plus simple. Et pourtant, n'oubliez pas, c'est un pasteur. Et Dieu ne dit pas, écoute, tu es un serviteur de Dieu, fais attention à ci, fais attention à ça. Regardez la première chose que Paul demande à ce jeune pasteur. Donc, tous les chrétiens sont concernés par cette affaire. S'il le demande au pasteur, bien sûr que Dieu le demande à plus forte raison aux chrétiens également. 2 Timothée chapitre 2, regardez bien, c'est tout simple. Mais ce sont des clés. Toi donc, mon enfant, avant d'être un serviteur, et avant d'être un pasteur, et avant d'être un responsable, diacre, tout ce que vous voulez, nous sommes d'abord des enfants. Vous êtes d'accord ? Nous sommes d'abord son fils et sa fille. Vous êtes d'accord, frères et sœurs ? Eh oui, ne jouons pas trop avec les titres. Toi donc, mon enfant, c'est comme ça que Dieu peut te parler. Tu es mon enfant. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Fortifie-toi, cette fois-ci c'est en quoi ? Dans la grâce. Écoutez bien, frères et sœurs. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. J'ai envie d'ajouter pour qu'on comprenne mieux, qui est en Jésus-Christ à Golgotha, au calvaire. Vous entendez ? Fortifie-toi dans la grâce. Vous êtes tous conscients, si vous êtes sauvés, ça va être facile à comprendre. Écoutez-moi bien. Vous n'avez pas trouvé le texte ? C'est pas grave. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Vous êtes tous conscients, si vous avez pris le baptême par immersion, par une vraie conviction de péché, par une vraie repentance et une conversion, que vous ne pouviez pas vous sauver vous-même. D'accord ? Vous le saviez. On a essayé, plus ou moins. On a essayé, pas tous, hein ? Mais certains ont essayé d'être religieux, de plaire à Dieu en faisant des œuvres. Il y a plein de gens qui pensent qu'on est sauvé par les œuvres. Il y a plein de gens qui essayent par leurs efforts, par la moralité. Ils ont une meilleure moralité. Moi, j'ai une bonne moralité. Je ne dis jamais de gros mots. Je suis super poli et tatati et tatata. Je fais des béats régulièrement, etc., etc. Moi, je mérite le ciel. Puis un jour, on comprend bien, malgré tout ce méandre de recherche, qu'on ne peut pas se sauver soi-même, il faut passer par le sang du calvaire. Oui ou non ? Qui c'est qui l'a expérimenté ça ? Là, vous me faites peur, je vous promets. Vous le savez, on ne peut pas se sauver soi-même. Écoutez bien, frères et sœurs, vous êtes d'accord ? On ne peut pas se sauver soi-même. C'est Jésus-Christ qui nous sauve, par grâce. Comment se fait-il alors ? Comment se fait-il ? Que pour tout le reste, nous essayons par nos propres forces d'avoir la victoire. Et ça, c'est une clé. De la même manière que pour obtenir le salut en Jésus-Christ, nous avons dû passer par le calvaire et aller à la croix du calvaire et aller sous son sang précieux. Personne n'ira au ciel s'il n'a pas accepté le sang de Jésus-Christ. Personne. Ce n'est pas votre religion ni la nôtre qui vous sauvera. Mais toutes les victoires, le fait d'être fort, c'est par grâce. Si j'ai besoin d'une victoire, je ne sais pas laquelle, je suis encore esclave de tel lien, je suis encore piégé par le tabac, je ne sais rien, l'alcool. Mes frères et sœurs, vous croyez que c'est par vos forces que vous y arriverez ? Non, vous y arriverez par la grâce de Jésus-Christ. Tout est par grâce. Regardez, on peut prendre un texte dans l'Apocalypse. C'est un texte que j'aime beaucoup parce que c'est un texte qui explique combien nos luttes et nos combats sont profonds. Regardez dans l'Apocalypse chapitre 12, il y a un texte, mais que nous pourrions appliquer à tous les cas. Jésus parle, Apocalypse 12, verset 10. C'est un texte que je vous conseille de noter et que vous l'appliquiez pour toutes les victoires dont nous avons besoin. Je ne sais pas si encore vous avez besoin d'une victoire, je ne sais pas laquelle, la jalousie, un problème lié à la sexualité, un problème intellectuel, un problème professionnel, un problème psychique, un problème humain, qu'importe. Tous les problèmes, vous pouvez les comprendre avec celui-ci. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. L'accusateur, laissez-moi vous dire qu'il n'est pas au chômage. Il nous accuse, alors il y a la fausse culpabilité, jour et nuit. Comment l'ont-ils vaincu, cette accusation? Et voilà. On le lit, s'il vous plaît. C'est ça, la grâce. Ils l'ont vaincu par leurs efforts. Mais regardez, mes frères et sœurs, ça, c'est une révélation. Pour certains, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Gloire à Dieu, le sang de l'Alliance. À cause de la parole de leur témoignage. Gloire à Dieu. La victoire, elle est par le sang. Le salut, il est par le sang. La victoire, quelle qu'elle soit, elle est par la grâce, donc par le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a plein de chrétiens qui rétrogradent. Ça fait 5 ans qu'ils essaient. J'ai jeûné 3 jours pour arrêter de fumer. Ça n'a pas marché, je suis découragé. Sérieusement, moi je crois dans la prière et dans le jeûne, mais je crois surtout dans la confiance en Dieu. Il y a des gens, ils jeûnent, ils prient, mais ils n'ont pas confiance. J'y reviens, parce que c'est lié tout ça. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Mais faites l'expérience. Refaites l'expérience. Refaites une expérience. Parce qu'il y a des fois, on demande à Dieu, fais ci, fais là. Alors on est frustré, puisque Dieu ne le fait pas. Il ne le fera pas. Et comment il ne le fera pas? Ça nous perdrait certaines expériences. Mais il y a des expériences, je peux vous dire, que Dieu veut qu'on les fasse. Seigneur, tu vois, j'ai ce blocage, j'ai cette dépendance, j'ai ce problème d'irritation. Seigneur, que ton sang me purifie, que ton sang me lave, que ton sang me délivre. Sur la croix, Jésus a tout accompli. Quand vous lisez les 3 premiers chapitres de Paul aux Éphésiens, je vous encourage à les méditer, puisque c'est un des facteurs pour être fortifié. Regardez le nombre de fois où Jésus parle de la richesse, de sa grâce, la richesse de son amour, la richesse de sa bonté, les richesses incompréhensibles de Christ, la richesse de sa gloire. Paul est en prison, c'est certainement l'homme le plus riche de la terre ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il marche avec Dieu. Il a compris qu'on est fortifié par la grâce et les efforts qu'on doit faire. On ne doit pas les mettre, on ne doit pas faire confiance à ses efforts. On doit faire des efforts pour rester dans la grâce de Dieu. Qui veut faire une expérience avec le Seigneur par rapport à une victoire? Vous le savez, le Saint-Esprit vous le montre. Vous le savez, la telle ou telle victoire que vous avez à prendre. Vous la prendrez seul devant Dieu. On peut la prendre ensemble, mais c'est sûr. Quand on prie ensemble, quand même Dieu aime qu'on prie ensemble. C'est biblique. Mais vous croyez que seul ce soir dans votre chambre, à genoux au pied de votre lit, vous croyez que vous pouvez expérimenter ce fait de chanter victoire? Je m'endors dans la victoire. Je serai un vainqueur parce que je suis meilleur que les autres? Non, je serai un vainqueur parce que la grâce de Dieu m'inonde. Ce n'est pas un chant, c'est une vérité. Le sang précieux de Jésus me lave. Je serai vainqueur parce qu'à la place de me fourrer devant la télé, eh bien je me fourrerai dans la présence de Dieu. Je m'inonderai dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit me donnera la victoire. Il y a des gens qui passent 3, 4, 5 heures par jour devant la télé. Ne vous étonnez pas, ne vous étonnez pas. Si vous êtes remplis des chaînes, déchaîne en 2 mots, sans vouloir faire de jeu de mots. Mes frères et sœurs, si vous êtes remplis de la grâce de Dieu, vous serez délivrés de toutes ces chaînes. Et l'Église sera libre, et nous verrons des conversions, et le Saint-Esprit se réjouira, et des gens seront convaincus de péché. Les gens rentreront dans l'Église, ils ne seront même pas assis, que déjà ils seront travaillés. Et 8 jours après, ils diront, je veux prendre le baptême. On n'aura pas mis de, je le fais pas, hein, mais on n'aura pas mis de supplier. Vous ne voulez pas prendre le baptême, c'est sûr? Ça ne vous ferait pas plaisir de prendre le baptême? Ça, quand même, ça serait bien, ça ferait plaisir aux frères, et à moi surtout ça. Pitié Seigneur. Mes frères et sœurs, je termine. Le Saint-Esprit est plus puissant que tout. Et s'il est dans votre corps, s'il est dans votre âme, je pense qu'il peut donner la victoire. Est-ce qu'on pourrait terminer en priant? Est-ce qu'on peut vraiment croire ces choses? Est-ce qu'on peut se recueillir et dire, mais dans quel état je suis? Dans quel état? Et s'il y a quelqu'un qui veut être fort pour Dieu? Et s'il y a quelqu'un qui dit, moi, oui, je vais m'appliquer à exhorter les frères, je ne le ferai pas pour le faire, mais je le ferai parce que je ne peux pas faire autrement. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous êtes rempli de découragement, vous allez essayer d'encourager quelqu'un, mais au bout de 3 minutes ou 20, c'est le découragement qui va ressortir, parce que la comédie, on ne peut pas la jouer in aeternum. Mes frères et sœurs, fortifie-toi. Fortifie-toi, mon frère, quand tu passeras devant Dieu. Parce que ça ne va pas tarder. Quand tu vas passer devant Dieu, mon frère, comment tu veux que ça se passe? Tu veux que Dieu te dise, comme la prophétie le disait, tu n'as pas pu veiller une heure par jour avec moi? Est-ce que Dieu pourrait nous le dire, ça? Oui, pourquoi? Parce qu'il l'a déjà dit. Tu n'as pas pu veiller une heure? Prions-le, il nous aidera. Si nous vivons, pas d'une manière légaliste, mais d'une manière joyeuse, ce que nous avons, parce que c'est sûr que si c'est pour le faire, ne le faites pas. Ça ne sert à rien. C'est comme un mari qui n'aimerait pas sa femme et qu'on l'écoute, si tu veux que ça marche, dis-lui que je t'aime 3 fois par jour. Je t'aime, chérie. Ça ne sert à rien, ne le faites pas. Mes frères et sœurs, si nous glorifions Dieu avec notre cœur, si nous méditons la parole jour et nuit, si nous nous confions en Dieu et si nous connaissons ou réapprenons à reconnaître la grâce de Dieu par le sang du calvaire, nous aurons toutes les victoires, même celles où le diable pourrait nous accuser jour et nuit. Nous aurons la victoire. Prions, prions sérieusement. Tu nous as donné rendez-vous, Seigneur, ce matin. C'est toi qui, dans ton infinie bonté, permets ces rendez-vous. Tu vois déjà tous ceux qui n'y sont pas venus, mon Dieu, fais leur grâce. Interpelle-les. Interpelle tous les paresseux. Interpelle tous ceux qui ne sont pas venus, Seigneur, qui auraient dû être là. Mais tu nous avais donné rendez-vous, tu savais qui serait là. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est obéir à chacun de tes ordres, car ils sont tous bénis. Ils sont tous intelligents. Nous voulons exhorter les frères et les sœurs jusqu'au dernier souffle. Nous voulons, Seigneur, être des sources de bénédiction et faire ce que tu veux que nous fassions. Seigneur, nous voulons obéir à ta parole. Tu sais ce que tu nous demanderas à chacun par rapport à la vie de l'Église, par rapport à la maison, par rapport au travail, par rapport à notre emploi du temps. Seigneur, que ce soit toi qui conduises notre emploi du temps. Délivre, Seigneur, à la croix, tous ceux qui ont besoin de délivrance. Tu vois ceux qui n'arrivent pas à obtenir la victoire. Informe-les, Seigneur, informe-les de cette affaire que par le sang, ta grâce continue à couler. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te demandons de nous garder, de nous raccompagner, de nous conduire pour cet après-midi, pour ce soir, pour demain, pour chaque instant de notre vie, comme nous le chantons, nous voulons que tu nous conduises, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen.